Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous.
Et avec votre esprit.
Cette année, nous avons été un peu frustrés, j'allais dire, puisque l'Avent a été court, de 3 semaines. Mais nous avons cette grâce, eh bien, je dirais, d'avoir du concentré liturgique avec ce 4e dimanche de l'Avent qui précède immédiatement la célébration de Noël. Le Seigneur nous offre la grâce de plonger vraiment dans la liturgie, dans la prière de l'Église, pour que nos cœurs soient le mieux ajustés possible à célébrer le Sauveur. Oui, faisons nôtre ce cri, réveille Seigneur ta puissance et viens délivrer ton peuple, viens me délivrer, parce que c'est pour chacun de nous aussi que le Sauveur vient. Nous savons tous ces liens peut-être qui nous entravent encore, petits ou gros, et que le Seigneur veut briser toutes ces chaînes, tous ces liens, pour que nous puissions lui répondre comme Marie, dans la confiance et la générosité. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer ce mystère qui nous sauve, ce mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché.
Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai, il s'établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué les juges pour conduire mon peuple Israël, oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frère, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile, qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel. Mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. À celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur.
Avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu.
Bien assis. Ce sera peut-être un peu plus long que d'habitude. L'homme propose et Dieu dispose, dit le proverbe. Et cela est vrai, mais l'inverse aussi n'est pas moins vrai et peut-être est encore plus vrai. Dieu propose et l'homme dispose. Deux attitudes où se rencontrent la liberté de Dieu et la liberté de l'homme. Deux attitudes où se joue finalement une vraie rencontre entre Dieu et l'homme. Ou pas. Deux attitudes qui sont comme incarnées dans ces deux figures que nous donne la liturgie de ce jour, David et Marie. David a réussi, lui qui était le petit pâtre de Bethléem, le petit dernier qui n'avait si peu d'importance. Oh oui, il reste encore le petit dernier qui est au champ, mais bon. Et le voilà à présent roi des 12 tribus d'Israël, non sans mal, ça n'aurait pas été facile de rassembler toutes ces tribus, mais voilà que finalement, il est reconnu comme roi des 12 tribus et son royaume est en paix. Après, là aussi, pas mal de guérilla quand même. Mais enfin, il est en paix. Tout lui réussit. Mais il sait, il n'oublie pas qu'il doit tout cela à la grâce de Dieu, au Seigneur, Alors il se demande comment exprimer son immense reconnaissance au Seigneur, et il envisage alors de bâtir un temple au Seigneur, comme c'était la coutume de beaucoup de rois, des royaumes environnants aussi à l'époque, qui commandaient des travaux de temple pour honorer leur Dieu. Un temple au Seigneur pour l'abriter, l'accueillir dans une demeure qui lui fasse honneur, qui fasse honneur au Seigneur, qui fasse peut-être aussi honneur à David, peut-être secrètement cherchait-il aussi un peu sa gloire. C'est notre orgueil nous colle tellement à la peau, même dans les meilleures initiatives. Voilà, l'intention n'était pas forcément complètement pure, mais enfin, il y avait quelque chose de tout à fait louable. Cependant, malgré l'intention fondamentalement louable de David, le prophète Nathan, de la part du Seigneur, va lui dire que son généreux projet, eh bien, n'est pas ce que Dieu attend de lui. Et ceci pour trois raisons. Donc l'homme propose et Dieu dispose. Pourquoi ce n'est pas le projet de Dieu? Eh bien, d'abord parce que Dieu n'a rien demandé. En substance, il lui fait dire « je t'ai rien demandé ». Oui, et c'est d'ailleurs ce verset 7e qui malheureusement n'est pas dans la liturgie, dans le texte liturgique d'aujourd'hui, mais qui fait partie intégrante de cette révélation de Nathan à David de la part de Dieu. « Je n'ai jamais réclamé qu'on me construise une maison ». Voilà, bon, c'est très bien, tes idées, c'est généreux, mais ça ne m'intéresse pas. Dieu n'a pas besoin de nos offrandes matérielles. Bon, c'est notre manière de les exprimer, c'est pas mauvais. Mais Dieu, fondamentalement, n'en a pas besoin, bien sûr. Il se contente de peu, de si peu. Et Bethléem le dira merveilleusement. Tout ce que l'homme fait pour Dieu profite à l'homme et non à Dieu, dit saint Augustin. Deuxième raison pour laquelle Dieu dit « non, ce n'est pas mon projet, t'es sympa, mais ce n'est pas mon projet ». Dieu ne se laisse pas enfermer. Quelque part, toujours cette tentation de mettre la main sur Dieu, de le confiner dans un lieu. Et il rappelle à David que depuis la sortie d'Égypte, il chemine sous la tente et il ne s'en est pas plaint. Et ce sont des versets aussi qui ne sont pas dans le texte d'aujourd'hui, mais qui sont présents dans le texte originel. Salomon, lorsque finalement il construira un temple au Seigneur, avec la bénédiction du Seigneur cette fois-ci, lorsque Salomon prendra la truelle, je dirais, il s'en souviendra en consacrant plus tard le temple et avec humilité dira au Seigneur, « Mais Seigneur, comment pourrais-tu habiter ce que j'ai construit, toi qui as fait les cieux, les galaxies ?» Oui, humilité, Dieu ne se laisse jamais réduire, enfermer, confiner dans nos lieux, même si nous savons bien qu'il est présent par excellence dans le sacrement de l'Eucharistie. Il est aussi présent de mille manières. Et surtout, la raison principale pour laquelle Dieu lui dit « mais je t'ai rien demandé, enfin ce n'est pas mon projet », surtout, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas d'habiter effectivement des temples de pierre, mais dans le cœur de son peuple. Et finalement, Jésus nous révélera qu'il veut habiter dans le cœur de tous les hommes. Celui qui m'aime gardera ma parole. Nous viendrons chez lui avec mon Père, nous ferons chez lui notre demeure. C'est ça qui intéresse Dieu, sa créature faite à son image, la seule créature faite à son image. C'est d'habiter le cœur de ses enfants, le cœur des hommes et d'abord le cœur de son peuple qui avait et qui garde la mission d'être, témoin de justement cette présence de Dieu aux hommes. Ce qu'il veut présentement avec la collaboration de David comme berger de son peuple, c'est établir, enraciner son peuple sur une terre pour l'enraciner dans une relation d'alliance, d'amour. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai, il s'y établira il ne tremblera plus. Et pour cela, pour bien aider son peuple à s'enraciner et être fidèle à l'Alliance, eh bien, effectivement, ce n'est pas du luxe aussi de se choisir, de se susciter d'abord David, effectivement, qui aura la mission et qui sera, malgré tous ses péchés, qui sera confessé comme le saint roi David, parce que un roi pieux, un roi qui, au cœur même de sa misère humaine et de ses péchés, saura se tourner inlassablement vers Dieu pour lui demander sa miséricorde et y croire. Mais surtout, eh bien, Dieu révèle à David son projet, donner à David un descendant dont le règne sera stable, sera sans fin. Parce qu'il sait que, puisqu'il veut habiter le cœur de tous les hommes, eh bien, il faut aussi un berger de toute humanité, comme nous chantons, et ce sera Jésus. Dieu propose et l'homme dispose, c'est vrai aussi, et c'est Marie qui l'incarne. Elle aussi se sait toute dépendante du Seigneur. Depuis l'éveil de sa conscience, elle s'est orientée totalement vers Dieu. C'est ce que nous fêtons le 21 novembre dans la fête de la présentation de Marie au Temple. Et finalement, elle a choisi de consacrer sa virginité au Seigneur, comme le manifeste sa réponse à l'ange Gabriel. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? C'est bien le signe que Marie a pris le propos de virginité. Comment le Seigneur pourrait-il ne pas accueillir ce propos, cette offrande de toute elle-même à son Seigneur, ne pas accueillir et ne pas respecter un tel propos, un tel amour, cependant, tout en le respectant. C'est là la délicatesse de Dieu qui sait respecter justement la liberté et les choix les plus sacrés des hommes, de ses enfants. Tout en respectant ce propos de Marie, il va l'intégrer et l'ouvrir à son projet, à lui, la maternité divine. Mais pour cela, il a besoin du consentement de Marie. Et justement, Marie ne veut être que la servante du Seigneur, comme elle le dit. Ce qui signifie non une servilité, mais une libre disponibilité au projet de Dieu. Et en cela, sa disposition intérieure est en parfaite harmonie avec celle du Fils de Dieu qui, en entrant dans le monde, nous apprend l'Épître aux Hébreux, ne veut être que le serviteur du Seigneur. Voici que je viens, Seigneur, pour faire ta volonté. Ainsi Marie, par sa collaboration totale à l'œuvre de son Fils, sera, comme le dit le Concile, l'associée parfaite du Rédempteur. Alors, je voudrais vous partager, ce sera peut-être un petit peu long, mais c'est tellement beau, je trouve, les réflexions du don André Louf, un ancien abbé du Mont des Cats, l'abbaye cistercienne du Mont des Cats. Marie consent à la grâce. Consentir à la grâce, c'est aussi ce qui est offert à chacun de nous, tout particulièrement ce temps de salut où la présence de Jésus à travers la fête de Noël se fait proche. Car pour qui ose consentir à la grâce, la merveille soudain s'éclaire et éclate, et le miracle s'accomplit. Voilà. Vous avez entendu comme moi des récits de conversion, ou des récits d'irruption de Dieu dans une vie. Que c'est beau! Oui, le Seigneur fait des merveilles encore aujourd'hui. Aussi longtemps, poursuit André Louf, que nous n'arrivons pas à saisir la grâce là où elle s'offre, nous ne pouvons provisoirement consentir qu'à nous-mêmes, à nos propres forces, à nos propres projets ou à ceux des autres. Et c'est là, dit-il, en attendant un alibi tout à fait honorable et dont Dieu se contente provisoirement. Mais lorsque la grâce de Dieu se révélera enfin aux yeux de notre cœur, tout deviendra finalement plus simple. Car la grâce simplifie tout, elle apaise,
Elle nous situe dans le droit fil de ce que nous sommes vraiment aux yeux de Dieu, dans ce que nous sommes appelés à être et à faire pour le royaume. La grâce nous conduit avec son infinie douceur, mais infailliblement, à notre plein épanouissement en Dieu. Pour cela, il suffira toujours d'être la petite servante du Seigneur, de dire oui à la grâce, et de savoir par expérience et tous les jours de mieux en mieux, comme la Vierge Marie, que nous n'y sommes vraiment pour rien. Tout est grâce. Consentir à la grâce. Alors, serons-nous assez pauvres de cœur en ce Noël pour nous ouvrir au projet de Dieu? Dieu propose et l'homme dispose. Au projet de Dieu, nous laisser faire comme Marie, qu'il me soit fait. Nous laisser faire, ne pas mettre d'obstacle à la grâce, au projet de Dieu, avec humilité, mais aussi générosité et adhésion la plus continuelle possible. Aurons-nous assez de foi pour croire que ses projets à lui, Dieu, sont toujours plus grands, plus beaux, plus heureux que tous nos projets humains? Amen.